au départ, en République centrafricaine, ils étaient essentiellement situés à l'extrême est, c'est-à-dire à la frontière à la fois soudanaise et République démocratique du Congo. En fait, pendant toute une période, ils étaient cantonnés dans l'extrême est, autour de la préfecture de Obo. L'armée ougandaise s'est installée et à ce moment-là, suite aussi à des bombardements des forces des Nations Unies dans la région de République démocratique du Congo, à la frontière avec la République centrafricaine, ça a créé probablement une dispersion et un éclatement de ces troupes. Ce qui fait que concrètement aujourd'hui, vous avez des petits groupes très bien armés qui se déplacent dans la forêt, ils sont 30, 50, et ils se déplacent essentiellement pour se nourrir en fait. Le problème c'est qu'ils sont à la fois en fuite et en même temps affamés. Mais ils sont par ailleurs bien armés. Alors, nous, les questions qu'on se pose, ce sont les suivantes. C'est d'abord, qui c'est qui les arme? Parce que pour avoir des balles, pour les Kalachnikov ou les A-52, qui sont des armes françaises, il y a forcément des gens qui les approvisionnent. Or, eux, quand ils pillent des villes ou des villages, ils ne prennent pas l'argent. Ça, on le sait, on l'a vu à Zako, ils se sont intéressés essentiellement à l'alimentation. Ils avaient tellement faim qu'ils ont même mangé des savons, parce qu'ils pensaient que c'était des beignets. Et ensuite, ils ont emmené des otages, 49 hommes et 2 jeunes filles, pour qu'ils soient les porteurs de manioc, d'arachide, de riz, de maïs, d'huile, etc. Mais ils n'ont pas pris l'argent chez les commerçants qu'ils ont par ailleurs pillé de vêtements ou de boîtes de conserve ou de spaghettis.
Ça n'est donc pas pour combattre, pas pour poursuivre le combat. On est juste dans une situation de propre survie de groupe, c'est ça?
Moi, c'est vraiment mon sentiment. À moins qu'ils ne préparent quelque chose, un regroupement quelque part dans la forêt à l'est de Zako, c'est-à-dire dans une zone totalement inhabitée. Alors, soit ils préparent un regroupement de ce style, mais moi, j'en ai absolument aucune idée. Soit ils sont simplement en fuite et donc il faut qu'ils se nourrissent dans tous les 15 jours, tous les mois. Eh ben, ils attaquent une ville ou un gros village dans lequel il y a un marché suffisamment abondant. Nous, on s'interroge beaucoup sur l'approvisionnement en armes. Pour nous qui sommes les habitants d'ici, on ne comprend pas comment des gens là peuvent être à la fois affamés et aussi bien armés.
Est-ce que les habitants peuvent prévenir les attaques? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils vont arriver, plus ou moins? Est-ce que ça s'est régulé ou...
Non, ça c'est très très difficile en fait. Ils attaquent très très souvent en fin de journée. Toutes les attaques qui ont eu lieu ces temps-ci ont toutes eu lieu en fin de journée, autour de 16h jusqu'à 17h30, c'est-à-dire au moment où le soleil commence à décroître sérieusement, jusqu'à la tombée de la nuit. Donc en 1h30, ils entrent dans une ville, essentiellement objectif c'est le marché, et interrompre les communications, quand c'est possible. Et à partir de là, pendant 1h30, c'est le pillage du marché, uniquement d'alimentation et du vestimentaire. Parfois, ils se changent sur place, c'est-à-dire qu'ils jettent leurs vieilles savates, leurs vieux vêtements, pantalons et t-shirts ou chemises, et ils s'habillent dans les magasins qui en vendent, et ensuite, ils repartent avec un certain butin, des vêtements, des lampes de poche, des piles, et puis essentiellement de l'alimentaire, en fait.
Est-ce qu'on a des nouvelles des personnes enlevées? Ils les relâchent après coup?
En ce qui concerne la ville de Zako, ils ont emmené 51 personnes. Sur ces 51 personnes, il y a donc 49 hommes et 2 femmes. Un homme a été tué dans les heures qu'on suivit, visiblement trop fatigué pour porter la charge qu'on lui avait mise sur les épaules et le dos. Il a été abattu et les sacs qu'on lui avait donnés ont été distribués à d'autres plus costauds. Donc les 50 otages qui ont passé la nuit et qui ont marché pendant 4 jours dans la forêt pleine est ont été libérés quelques jours après par leurs ravisseurs, les soldats de la LRA, leur disant « Mais de toute façon, on n'a plus besoin de vous, rentrez chez vous. » Mais dites bien qu'on va revenir. Quand nous, nos stocks seront épuisés, on reviendra. L'émotion était extrêmement forte, extrêmement belle. Ça a été un moment très très fort pour nous puisque les gens sont arrivés avant, pendant et après la messe. Alors pour nous, si vous voulez, il y a eu beaucoup de joie à revoir bien sûr les otages. Il n'en manque que 3. Hein. Il n'y a que 3 jeunes garçons qui n'en sont pas revenus.
Donc c'est un groupe qui n'a pas l'air d'être en lutte mais plutôt en fuite, qui recommence sans cesse. Pourquoi est-ce que l'armée qui a réussi à les déloger de l'extrême est n'intervient pas pour protéger la population civile, et en tout cas protéger à la fois les civils et puis les biens des civils bien sûr?
Alors là on touche à un sujet extrêmement sensible. L'armée ougandaise a été appelée en renfort. Moi, je ne connais absolument pas les termes de l'accord entre le gouvernement centrafricain et le gouvernement ougandais. En tout cas, l'armée est fortement implantée dans l'Est avec énormément de matériel terrestre et du matériel appui aérien. Ça, on le sait, on l'a vu, j'ai même vu des photos faites par les prêtres qui sont à Obo. On sait que l'armée ougandaise se déplace dans le pays, dans toute la zone Est, y compris à Zako, y compris à Yalinga. Ils ont des camps de base dans la forêt. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune intervention, on va dire, d'envergure contre ces groupes qui sont nombreux et qui représentent probablement plusieurs milliers d'hommes de la LRA. Ce n'est pas quelques centaines. On pense aujourd'hui que c'est plusieurs milliers et que... Et donc l'armée ougandaise, pour l'instant, n'est pas bougée. Alors, L'interrogation, elle est très nette. Hein. Chaque militaire ougandais est payé $50 par jour. $50 par jour. Dollars américains. Ce sont les États-Unis qui semblent financer le projet. Et ça veut dire que tant qu'ils sont là, ils ont $50 par jour. Alors, je ne sais pas quels sont les termes du contrat, mais ils ne sont pas payés à l'efficacité. Alors, peut-être qu'ils se préparent quelque chose d'envergure, mais on n'en sait rien. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'entre-temps, les villes et villages sont pillés régulièrement et nous, eh ben, nous souffrons. Pour les personnes et pour nos biens.
Donc on est dans une situation qui pourrait encore stagner, on va dire, sans émettre d'hypothèses. Est-ce que la population, et puis j'imagine l'Église avec elle, essaye de se débrouiller pour se protéger elle-même ?
Il y a quelques soldats des forces armées centrafricaines, hein, mais les forces armées centrafricaines, c'est quelques dizaines de milliers d'hommes dans tout le pays. Or, le pays est plus vaste que la France. Ça veut dire concrètement que c'est quasiment impossible de garder un pays dans lequel qui fait 620 000 km², qui n'a que 4 millions d'habitants et dans lequel toute la zone Est est malheureusement très peu peuplée. Ça veut dire qu'il faut s'organiser entre nous. Alors il y a des comités d'autodéfense qui voient le jour dans les villages. C'est là qu'il y a des hommes qui sont armés de leurs fusils fabrication locale et avec des cartouches qu'on appelle les double zéro. Ce sont des cartouches de chasse classiques qu'on trouve en Europe. Et ils sont chargés de surveiller un peu les gens qui passent. Trouvent vraiment des comportements louches, qu'ils n'ont absolument aucun moyen de répliquer. Pourquoi ils ont un fusil ? C'est essentiellement pour, au cas où il y a un tout petit groupe qui se présente, qui puisse alerter la population en tirant en l'air, en fait. Contre une Kalachnikov, vous n'avez absolument rien à faire avec un fusil fabriqué à partir d'un guidon de vélo. Hein. Donc, on n'a pas tellement de moyens de s'organiser. Ce qu'on fait, c'est qu'on parle beaucoup entre nous et que on essaye de chasser la peur, c'est-à-dire du calme, parce que c'est pas la peine de raconter des fausses informations. D'autre part, ben, on invite les gens à se rendre comme avant au champ, à la pêche, à la chasse ou au chantier, et puis à être vigilant. Je crois que c'est ça. Calme et vigilance sont un peu les deux termes qui pourraient caractériser. Et puis, il y a beaucoup de temps de prière pour la paix dans le pays, puis la paix dans nos villes, dans nos villages. Nos prières sont des prières qui nous amènent à nous unir, par-delà même d'ailleurs nos différences religieuses, hein, pour chercher des chemins de paix, des vrais, vrais chemins de paix. Personnellement, je suis un peu inquiet de savoir qu'éventuellement les rebelles reviennent un jour pour piller à nouveau pendant une heure et demie, se servir dans le marché et puis ramener les otages disparaître dans la forêt pour un certain nombre de jours, un certain nombre de semaines. Ça, c'est une inquiétude quand même réelle. Ce que j'ai et que partage, on va dire, quasi toute la population ici. Hein. On n'est pas naïf et pas aveugle du tout. Hein.